Et ce lundi, Elisabeth s'interroge sur le secteur du tourisme. Elle reçoit Philippe Glasgen, fondateur du guide du Routard. Donc, c'est La France bouge du lundi au jeudi de 20h à 21h sur Europe 1. Carillon d'Europe 1, il est 23h et on retrouve Guillaume Lariche pour les informations. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Valérie, bonsoir à tous. Gabriel Attal sera demain à Nice pour présenter l'expérimentation d'internat éducatif pendant ses vacances scolaires. Le Premier ministre visitera le lycée du Parc Impérial. Cet établissement pilote de l'expérimentation doit accueillir des jeunes avant qu'ils ne tombent dans la délinquance. Gabriel Attal entend proposer aux parents que leurs enfants soient envoyés en internat loin de leur quartier. Pour le chef du gouvernement, ces internats éducatifs redonneront aux jeunes en difficulté l'opportunité d'apprendre, de retrouver un cadre et aussi de conserver ses chances de réussite. Et pour les éloigner de la délinquance, faut-il généraliser un couvre-feu pour les mineurs à partir de 23h dans les villes de France? C'est oui pour 67% des Français interrogés dans notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Pour la rentrée des classes de demain, les syndicats d'enseignants de Seine-Saint-Denis et de Haute-Garonne appellent à la grève. Ils réclament la création de 8000 postes d'enseignants et de vie scolaire. Et parmi les autres revendications, pas plus de 20 élèves par classe ou encore la réfection des établissements vieillissants. Dans la marche contre le racisme et l'islamophobie, ce dimanche à Paris, au moins 3000 personnes ont défilé dans l'après-midi entre Barbès et République. Ce défilé à l'appel d'une cinquantaine d'organisations d'extrême gauche notamment se termine par un concert avec des rappeurs comme Kery James mais aussi Medine, ce dernier étant un artiste controversé. C'est puisqu'accusé d'antisémitisme. Un accident de manège mortel, c'était la nuit dernière dans une fête foraine à Blois. Éjectée d'une attraction dans la nuit de samedi à dimanche, une jeune femme de 27 ans n'a pas survécu à ses blessures. Une enquête est en cours, l'attraction est sous scellé, son propriétaire en garde à vue. Pour dire non à une nouvelle portion de route de l'A69 face à des problèmes liés à l'écologie, entre 1500 et 5000 personnes, suivant les sources, ont manifesté ce dimanche à Toulouse. Une ambiance festive contre ce projet devant réduire d'une vingtaine de minutes le trajet Castres-Toulouse contre 1h20 actuellement. Voilà, 80 ans jour pour jour, le droit de vote était enfin accordé aux Françaises. C'était le 21 avril 1944, après plus de 150 ans de lutte féminine. Tout a démarré avec la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, rédigée en 1791 pour l'égalité des droits. Pour en savoir plus sur ces années de lutte, un dossier vous attend sur europe1.fr. En clôture de la 30e journée de Ligue 1 de football, Paris a battu ce soir Lyon 4 buts à 1. Un petit peu plus tôt, eh bien, Toulouse et Marseille se sont quittés sur un nul 2 partout. Cet après-midi, Monaco, Metz, Montpellier et Lille ont gagné leur rencontre. La 21e journée de top 14 de rugby s'est refermée ce soir par la victoire écrasante de Bordeaux-Bègles sur Clermont. Score final 41-7. Et puis la course des 24 heures du Mans Moto, remportée cet après-midi par Suzuki devant BMW et Yamaha. Le circuit de la Sarthe accueillera les 24 heures du Mans Auto. Ce sera en juin, le week-end du 15. Europe 1, bientôt 23h03. Je ne sais pas si plus on est de fous, plus on rit. Mais en tout cas, plus on écoute Valérie Darmon, plus on sourit. Ça, c'est certain.
Oh, merci beaucoup. Et plus on écoute les informations et plus on est informé et un petit peu plus intelligent, sans doute. Enfin, je l'espère en tout cas. Donc, on vous retrouve à minuit.
Avec plaisir. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe 1, 22h, 1h.
La Libre Antenne.
Valérie Darmon.
Merci de nous rejoindre dans la libre antenne d'Europe 1. Merci de composer si vous le souhaitez, le 01 80 20 39 21. Vous pouvez aussi nous laisser un SMS au 7 39 21 suivi du mot nuit, nous écrire à libreantenne@europe1.fr et surtout laissez-nous votre numéro de téléphone pour que Juliette et Nicolas vous rappellent. Bonsoir Michaël.
Bonsoir Valérie.
Merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1.
Merci de me recevoir. Bonsoir à toute l'équipe ainsi qu'aux auditeurs.
De quoi voulez-vous nous parler? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ce soir?
Ah ben, m'écouter, c'est déjà beaucoup et de me permettre de m'exprimer. Je vous remercie. N'hésitez pas à m'interrompre, je vais vous raconter mon histoire.
Je vous écoute.
En 2022, mon ex-conjointe a tenté de m'assassiner par l'intermédiaire de mon fils aîné, qui avait 15 ans à l'époque. Et pendant qu'elle exécutait sur moi un étranglement respiratoire qu'il avait appris au cours de judo, elle l'encourageait à m'achever et elle appelait la police en faisant croire à des violences conjugales imaginaires.
Ouh là là, attendez, excusez-moi parce que je suis déjà presque choquée par ce que vous me dites, c'est-à-dire qu'elle a manipulé votre fils au point que votre fils a tenté de vous étrangler.
Alors mon enfant était aliéné depuis de nombreuses années déjà, et au moment où je m'en suis rendu compte, il était déjà trop tard.
Quand vous dites aliéné, c'est sous emprise de sa mère.
Voilà, aliéné, aliénation au sens aliénation parentale par la mère. Nous étions séparés depuis 8 ans, on habitait néanmoins sous le même toit. On attendait, on essayait de vendre l'appartement et c'était un petit peu compliqué. Et on était décidés depuis toujours à divorcer à l'amiable dans l'intérêt de tout le monde et notamment l'intérêt des enfants. Et je n'ai pas vu que par derrière, effectivement, elle a mis en place cette manipulation sur le grand pour profitant d'un Oedipe un peu trop prononcé qu'il a toujours eu pour l'avoir sous la main et effectivement...
Mais pardonnez-moi, Michael, mais quelle relation vous entreteniez-vous avec vos enfants et notamment votre fils à ce moment-là, puisque ça fait 8 ans, enfin ça faisait 8 ans que vous viviez ensemble sous le même toit, donc vous voyez vos enfants au même rythme que votre ex-épouse.
Exactement, j'avais une relation qui était un petit peu conflictuelle avec le grand, parce qu'à 15 ans, on est en pleine adolescence, on est indépendamment de l'aliénation, on est en contestation de beaucoup de choses, donc c'était sans doute un petit peu moins évident. Pour autant, on s'entendait bien malgré tout, on faisait des sorties, on s'amusait, et j'avais une relation pas fusionnelle, mais assez très forte avec mon fils cadet également.
Et pourtant, c'est le fils aîné qui a tenté de vous étrangler.
Alors, il ne l'a pas décidé tout seul, mais effectivement, il a été conditionné à le faire.
Mais c'est un conditionnement de longue haleine hein, pour en arriver. Alors, tuer le père, on dit souvent hein, qu'à l'adolescence, on tue le père, on tue la mère, pour mieux s'affranchir, pour mieux grandir, au sens figuré du terme.
Mais elle, figuré, effectivement.
Voilà, mais là, le passage à l'acte de votre fils de 15 ans, c'est d'une violence inouïe, non seulement pour lui. Vous aviez observé des comportements un peu comme ça, excessifs chez votre fils ou pas ?
Non, mon fils a toujours été l'enfant non violent, même l'enfant limite harcelé à l'école. Pendant toute l'école élémentaire, il a été harcelé, incapable de se défendre, faible. Il avait justement pris du judo pour prendre des leçons de judo pour commencer à prendre confiance, à s'affirmer. Mais la première chose qu'on apprend au judo, c'est que...
On gère sa colère, on gère ses émotions.
Ses sentiments, et surtout, que le judo n'a sa place qu'au dojo. Sur le tatami et certainement pas à l'extérieur, on apprend avant tout des valeurs humaines et des valeurs de respect. Donc, on est très loin d'un passage à l'acte. Et dans une situation familiale où il y avait zéro violence dans ce foyer, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Nous, c'est un foyer avec zéro violence, c'est quelque chose que j'avais mis en place et dont je tenais absolument depuis très longtemps.
Ah oui, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il est passé de rien, c'est-à-dire aucune violence, aucun mot plus haut que l'autre, à un acte quand même qui est décisif.
Parce exactement.
Que, alors là, vous vous êtes défendu, comment ça s'est passé ? Je vous laisse poursuivre.
Je me suis défendu, c'est vite dit. Contre son fils, on n'a pas envie de se défendre. Donc moi, je me suis défendu à moitié, j'ai essayé de survivre. Mais je ne l'ai pas frappé pendant la scène, je me suis défendu juste en libérant ma trachée. Donc en gros, il avait l'avant-bras sur ma trachée et il l'écrasait de tout son corps au-dessus de moi. Donc c'est ce qu'on appelle un étranglement respiratoire, ça s'appelle un katatejime au judo. Et j'essayais juste de me dégager de son bras et de son emprise. J'avais une main qui était libre, avec laquelle j'ai essayé d'appeler d'ailleurs à l'aide au téléphone. Mais j'en ai pas profité pour le frapper parce que ça reste son fils. En fait, on est dans une situation très complexe, totalement paradoxale, où moi qui ai donné toute ma vie pour mes enfants, je pouvais même pas dans cette situation au bord de la mort être. Je me voyais même pas en train de le frapper, même en légitime défense.
Et qu'est-ce qui a déclenché cet acte soudain ? Est-ce que vous veniez de vous disputer ?
Non, absolument pas. C'était je l'ai appris après, un guet-apens organisé avec sa mère. Par sa mère, sans doute, et même commandité par l'avocate de sa mère, pour être exact. Aujourd'hui, j'ai des éléments qui permettent presque de le prouver. Donc, tout a été organisé pour accélérer une séparation à son avantage. Et avec ma mort, mal récupéré tous les biens, les assurances vie, enfin...
C'est monumental,
ce dont
vous nous... Oui, dit comme ça...
Non, criminel, on se pense que c'est que chez les autres. À aucun moment, on peut imaginer que c'est chez soi.
Ah oui, en fait, vous auriez pu témoigner chez Christophe Ondelatte pour rester dans la famille Europain, comme je disais tout à l'heure.
Je n'aurais pas à témoigner du tout, moi, pour être honnête.
Mais... Oui, évidemment. Mais donc, vous dites qu'elle a commandité votre meurtre, en fait, avec la complicité ou sur les conseils de son avocate.
Exactement. C'est une conviction qui est forte et qui est appuyée par un certain nombre d'éléments. Je ne peux pas révéler forcément ce soir parce qu'il y a beaucoup de procédures en cours encore. Mais c'est loin d'être fini. J'ai prévenu le bâtonnier de toute façon et j'ai expliqué qu'en temps voulu...
Vous fournirez les pièces. Oui, vous fournirez les pièces.
J'ai demandé à M. Carucci l'ouverture d'une commission d'enquête contre cette avocate et de façon générale, je vais revenir contre les avocats qui profitent aujourd'hui des failles du système, des avocats véreux, qui ne représentent pas la majorité du corps des avocats, heureusement, mais qui créent ce genre de biais de société, parce que je pense que je ne suis pas le seul, et j'espère que des auditeurs réagiront dans les chats, sur la page Facebook, sur le vote Twitter, pour témoigner également, et qu'on soit plusieurs à se retrouver. Je pense qu'on est beaucoup de victimes aujourd'hui de ces agissements.
Alors, comment vous vous en êtes sorti? Vous poussez votre fils, j'imagine, parce que c'est quand même l'instinct de survie. Alors, bien sûr, vous n'allez pas vous bagarrer avec lui. Surtout, donc, vous avez l'air d'être un non-violent, mais au moins, vous le poussez pour vous dégager. Comment vous vous en êtes sorti?
Donc, je suis pris au piège, sous l'emprise. C'est une prise respiratoire, d'effondrement respiratoire. Donc, on est sur un tatami. Il y a un arbitre au compte de 10 qui arrête le match et tout s'arrête, heureusement. Parce que sinon, sans air qui rentre au cerveau, au bout de quelques minutes, on finit par mourir. C'est pas un étranglement sanguin, on tombe dans le coma, là, c'est respiratoire, donc c'est la mort, et la mort arrive très vite. Donc moi, je me suis uniquement défendu en repoussant son bras de toutes mes forces, jusqu'à ce que la police arrive. Et très honnêtement, au moment où la police est arrivée, alors j'imagine trop rapidement par rapport à ce qu'elle avait prévu, mais il me restait peut-être une ou deux minutes, j'avais été au bout de mes forces, j'avais plus aucune force, et je pense qu'il me restait juste quelques minutes à vivre. Mais j'étais incapable, malgré tout, dans cette situation, de le frapper. Donc la police a constaté la scène.
Allongé par terre.
J'étais allongé par terre, lui par-dessus, en train d'exécuter cette prise. Pour autant, c'est moi qu'ils ont embarqué, ils m'ont menotté. J'étais incapable de respirer encore, parce que j'étais empêché de respirer depuis un moment. Donc la respiration n'est pas revenue tout de suite, j'étais incapable de parler. Et j'ai été embarqué en tant que prévenu.
Mais qui a appelé la police? Vous?
Mais non, c'est elle. Ça faisait partie du plan, en fait. Elle a appelé la police pour couvrir le crime. Tout était très bien organisé, j'y repensais après coup. Sur le coup, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais après coup, finalement, si la police est arrivée quelques minutes plus tard, j'étais plus là. Elle avait couvert le crime par un appel prétendant à des violences conjugales inexistantes, même s'il n'y avait pas de traces. Je pense que personne ne se serait posé la question. Et l'affaire, c'était le meurtre parfait. L'affaire était dans le sac.
C'est incroyable, hein? C'est-à-dire que elle aurait fait comme si elle découvrait votre fils en train de... Comme si vous vous battiez avec votre fils et sous le coup de la bagarre...
Elle a déclaré à la police des violences conjugales envers elle et que mon fils serait intervenu pour la défendre.
Ah. Donc la police vous embarque et il se passe quoi au poste alors?
Donc je suis mis en garde à vue. Je suis resté en garde à vue pendant 48 heures. Après, j'étais transféré au dépôt. Donc ça m'a fait une vingtaine d'heures en plus. Donc on est sur quasiment 68 heures d'enfermement et dans des conditions très compliquées, avec des actes de violence et de torture, vous imaginez, avant de passer en comparution immédiate où j'ai demandé un renvoi et j'étais placé en contrôle judiciaire avec interdiction de me rendre à mon domicile. Et donc je me retrouve à la rue sans aucune affaire et sans rien. Malgré tout, pendant cette garde à vue, donc je précise, il y a vraiment eu des actes de violence de la police, de torture. À titre d'exemple, vous imaginez, dans une situation de stress comme ça, on a envie d'aller à la selle, il y a de la bile, c'est très toxique, donc c'est très oppressant. J'ai demandé du papier pour pouvoir y aller, on me l'a volontairement refusé pendant 24 heures.
Mais c'était quoi l'intérêt des policiers de vous pousser à bout à ce point?
C'est gratuit. On ne sait pas, c'est ce qui se passe dans les commissariats. Moi, je n'avais pas...
Vous habitez dans quelle ville, Michael?
C'était à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne.
D'accord. Donc vous êtes en région parisienne.
Voilà. Donc ce sont des actes gratuits. Ça concerne. Il y a beaucoup d'officiers qui ont été complices de ça. Il y en a quelques-uns qui ne l'ont pas été non plus. Il faut le dire aussi. Il n'y a pas que des voyous. Mais voilà, ça a été. Il y a eu des remontées à la police et tout, mais sans suite, hein, puisqu'ils sont, les policiers sont formés avant
oui. pour se protéger. Ils se couvrent les uns les autres. Est-ce qu'il y avait déjà eu des dépôts de plainte de votre épouse pour violence conjugale ou des mains courantes de déposer?
Non, il n'y avait absolument rien eu au préalable. Mais par contre, juste après, ça a été en cascade. Je voudrais préciser qu'au commissariat, comme ce qui s'est passé, une des premières choses qui se passe, c'est qu'on est amené aux UMJ pour constater les blessures des trois auteurs. Et les UMJ ont constaté que j'étais le seul blessé dans l'histoire, et même plutôt gravement.
Les UMJ, c'est quoi
Les unités médico-légales.
D'accord.
Donc ce sont les médecins assermentés par la police qui sont à même de constater officiellement les blessures et de déterminer leur gravité. Et donc ils font un certificat pour l'ensemble des personnes qui font partie finalement de l'altercation. Et donc j'ai été le seul blessé, ils l'ont certifié, ils ont expliqué mes blessures. J'ai eu 6 jours d'ITT, alors que ni mon fils, ni mon ex-conjointe n'ont eu quoi que ce soit. Donc ils ont certifié qu'il n'y avait ni douleur ni blessure les concernant, et que j'étais seul blessé. Alors je dis la police, mais en fait les affaires de flagrance sont menées par le parquet. Donc le parquet a eu connaissance des comptes rendus des UMJ. Et un autre point que je n'ai pas précisé, c'est que pendant la scène, donc j'ai essayé d'appeler mon ami au téléphone avec la main qui était libre, pendant que mon fils essayait de faire lâcher le téléphone. Et donc j'ai pu envoyer un vocal pendant une dizaine de secondes où j'appelle à l'aide, on entend mon fils aussi me frapper et tout. Et j'ai demandé à la police d'embarquer mon téléphone au moment où ils m'ont arrêté. Et ils ont refusé de le faire. Et le parquet, qui a eu dans mes auditions la connaissance également de l'enregistrement sur le téléphone, a refusé d'aller le saisir. Donc c'est pour dire à quel point ça va loin. Le parquet a été...
Et pour quelle raison? Le parquet aussi, c'est une erreur juridique ou...
C'est plus qu'une erreur juridique à ce niveau-là, puisqu'ils ont l'obligation, il y a une pièce, même la police, à partir du moment où ils ont la connaissance d'une pièce à conviction, c'est leur obligation, en plus étant assermentée, de la saisir. C'est la loi, ça. Donc ils ne l'ont pas fait, ils se sont rendus coupables de ce qu'on appelle de modification d'une scène de crime. Donc c'est un acte très grave, mais pourquoi ça a été fait? Parce qu'ils avaient l'intention de me condamner à ce moment-là déjà, et qu'ils ne voulaient pas de pièces qui prouvent le contraire. Il n'y avait aucune volonté de terminer la vérité, puisque malgré les comptes rendus des UMJ, ils découvrent finalement que je suis la victime et pas le coupable, et ça pourrait s'arrêter là, ils classent l'affaire et c'est fini.
Mais je ne vois pas quel est leur intérêt de vous juger coupable alors qu'il n'y a pas eu de main courante, il n'y a pas eu d'autres dépôts de plainte, il n'y a pas d'attestation qui vont dans le sens du fait que vous pouviez battre votre femme, et pour cause d'ailleurs. Donc c'est-à-dire qu'on a l'impression que vous nous parlez d'une cabale en fait.
Alors Valérie, j'entends le discours, c'est ce qu'on peut croire de l'extérieur, mais en réalité il y a une raison. Et alors c'est pas une cabale personnelle, hein. J'ai précisé quand même pour les auditeurs qui se poseraient des questions. Je suis très sain d'esprit, j'ai un certificat du psychiatre qui atteste que tout va bien, je prends aucun médicament, c'est tout sauf une cabale. Ce que je veux démontrer, et j'en ai les preuves aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de dossiers en cours, de la corruption du système, et comment on se fait piéger, et comment on est arrivé là. Et c'est très simple en fait, il y a une raison derrière. En 2017, lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en plein mouvement MeToo, il a fait sa priorité, il l'a expliqué d'ailleurs, on peut retrouver des interviews de l'époque, de faire des violences contre les femmes sa priorité, la priorité de son premier mandat. Et donc, pour cela, il demande à son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de tout faire pour faire changer les choses au niveau des violences mineures, ce qui en soi a été une très très bonne chose.
Oui, et d'ailleurs, les choses ont un peu évolué tout de même, hein.
Pas du tout et dans le mauvais sens. Et c'est justement ce que je vais vous expliquer.
Pour les femmes, peut-être un petit peu. Elles sont un peu plus entendues et elles osent prendre la parole davantage.
Alors, prendre la parole, c'est une chose. Par contre, avoir des résultats devant les juges, si vous les écoutez, elles vous diront non. Il y a beaucoup d'associations qui se montent et on comprend leur colère quand on sait ce qui se passe. Parce qu'en réalité, derrière la consigne du président de la République, Gérald Darmanin a demandé au préfet de mettre le paquet sur le harcèlement et les violences conjugales. En soi, ce qui pourrait être une bonne chose. Sauf qu'il leur a demandé de traiter les flagrances au détriment des plaintes. Pourquoi? Parce que dans le cas des flagrants délits, c'est le parquet qui prend la main et il permet d'avoir des condamnations extrêmement rapides par rapport à des plaintes qui derrière sont traitées qui durent des mois et des mois et dans lesquelles il n'y a souvent pas de preuves parce que les femmes se rétractent, parce qu'elles sont menacées ou autre chose. Sauf que dans un flagrant délit, comprenez bien Valérie, combien il y a de femmes violentées qui sont capables d'appeler la police pendant les faits, sous l'emprise de la violence du mari?
Très peu. Voire pas du tout.
Voire pas du tout. Et ben, vous comprenez ce qui se passe. En fait, cette consigne que Darmanin a donnée au préfet, elle a totalement biaisé cette affaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la police qui est censée prendre les plaintes, hein, c'est une obligation, mais elle ne le fait pas toujours, et beaucoup de femmes violentées en témoignent. Et même quand elles sont prises, il n'y a pas de suite derrière. Par contre, dans les quatre flagrants délits, il y a des condamnations systématiques. Sauf qu'aujourd'hui, les quatre flagrants délits représentent 90-95% de personnes innocentes, pour lesquelles des femmes ont simulé des violences conjugales ou inventé des violences pour se séparer du mari. C'est ça la réalité aujourd'hui que tout le monde ignore.
Mais d'où vous sortez ces chiffres, Michael? 90-95%, oui, parce que c'est beaucoup.
Je l'invente, mais c'est vous qui me dites combien il y a de femmes vraiment qui peuvent appeler la police pendant l'acte.
Ah oui, mais bon, après, moi, c'est ce que je suppute, mais je n'ai pas de chiffres. Hein. C'est pour ça que je vous posais la question des chiffres, évidemment.
Donc, admettons, c'est pas, disons pas 90%, disons une grande majorité de femmes aujourd'hui, je pense, ne sont pas capables d'appeler la police pendant l'acte de violence. Et à partir de là, elles vont déposer une plainte qui n'est pas traitée dans la majorité des cas. Par contre, quand la police est appelée, il y a condamnation systématique. Et ça, donc cette consigne que Darmanin a donnée au préfet, je l'ai eue d'une source sûre du ministère de l'Intérieur, et je l'ai constatée dans mon affaire de façon assez triviale.
Alors,
donc aujourd'hui, le souci, c'est que les personnes qui sont condamnées sont des innocents pour la plupart. Par contre, les femmes qui sont violentées n'ont aucune écoute. Et donc on a détruit encore plus la société, puisque derrière, dans une fausse affaire où le père est condamné injustement, on détruit aussi des enfants. C'est des familles entières qui sont détruites, c'est des enfants. Et des enfants qui vont grandir du coup sans père, et dont on se plaint aujourd'hui dans les médias, quand on écoute un peu partout, on parle de délinquance des enfants, des adolescents, on parle de criminalité. Et on veut pointer le doigt sur les parents, en disant que c'est la responsabilité des parents. Moi, je pense que c'est avant tout la responsabilité de nos politiques et du système.
Ça, c'est
parce
certain
que
aussi.
Permettez-moi
quand même de modérer un tout petit peu vos propos, parce qu'on ne va pas faire des généralités. D'abord, il y a de plus en plus de femmes violentées qui sont entendues, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de numéros verts, il y a des associations. Justement, aujourd'hui, on libère davantage la parole. Alors que ce soit suivi des faits, oui ou non, ça, on n'a pas les chiffres, ni vous ni moi, donc on ne va pas en parler. Et tous les innocents ne sont pas en train de pâtir du dysfonctionnement de la justice. On ne peut pas faire des généralités. Mais j'ai quand même une question d'un auditeur au 739-21 que j'allais vous poser, qui est, mais votre avocat, Michael, il n'a pas informé de tout ce que vous êtes en train de nous dire ce soir, la police, le parquet, parce que là, quand je vous écoute, évidemment, les policiers, pour certains d'entre eux, ont enterré des preuves, ils ont refusé en tout cas de saisir, évidemment, votre téléphone et ensuite d'aller rechercher la conversation téléphonique. Les avocats, et notamment l'avocat de votre ex-compagne, est quand même carrément véreuse. Donc, votre avocat, qu'est-ce qu'il dit dans cette histoire, à ce stade-là de votre histoire, hein ?
Alors, mon avocate, elle a plaidé ses faits devant le tribunal, parce que je ne suis pas venu encore à l'affaire civile, il y a aussi du civil. Mais évidemment, elle a plaidé ses faits, elle les a mis en avant, elle les a dénoncés. De mon côté, j'ai également des plaintes en cours. J'ai saisi le procureur de la République à plusieurs reprises contre les policiers, contre le parquet, les magistrats du parquet. Des plaintes qui ne sont pas traitées, qui ne seront sans doute jamais traitées, puisque je vois mal un procureur poursuivre les magistrats de son propre parquet ou des policiers. Mais de mon côté, évidemment, j'ai essayé de me défendre de ces faits, j'avais toutes les preuves en ma faveur. Pour autant, un an plus tard, parce que le procès a eu lieu un an plus tard, au pénal, j'ai été condamné à 4 mois de prison avec sursis.
Sur quelle base? Oui.
Sur aucune base. D'ailleurs, le magistrat, pendant l'audience, à la fin, a expliqué à mon ex-conjointe qui était présente, elle lui a dit les contradictions, vos déclarations et les déclarations de votre fils sont totalement contradictoires. Mon avocate avait plaidé sur le reste, les UMJ de toute façon affirmaient que j'étais la seule victime, donc il n'y avait strictement rien dans le dossier qui justifiait ma condamnation, et pour autant, elle m'a condamné, tout en sachant que j'étais innocent. Donc,
Vous avez fait appel.
Alors bien sûr, j'ai fait appel, il faudra attendre 3 ans peut-être pour avoir une suite et puis peut-être aller en cassation derrière. C'est un long chemin qui est entamé. Mais malgré tout, le magistrat ayant pu démontrer, j'ai quand même cette chance qu'elle fasse l'effort de vérité pendant le jugement, c'est pas toujours le cas pendant l'audience, a pu démontrer mon innocence et malgré aucun élément qui pouvait la faire douter, elle m'a quand même condamné même si elle a condamné moins que ce qui avait été requis par le procureur général.
Et vous aviez, je pose la question presque par principe, parce qu'on entend que vous avez un discours très construit, etc., mais vous n'aviez jamais eu de démêlé avec la justice auparavant?
Non, je n'avais jamais eu de gros démêlé. J'avais eu un souci précédemment sur une affaire similaire, mais dans le même contexte, où j'avais été accusé à tort de harcèlement moral sur une personne qui déclarait elle-même à la gendarmerie qu'elle n'avait jamais été harcelée par moi, donc montée de toutes pièces également. Et les deux affaires sont liées, évidemment, puisque l'avocate de mon ex-conjointe a joué sur l'existence dans le casier, même s'il y a un appel en cours, de cette affaire, en se disant que ça jouerait en ma défaveur. Et au niveau du commissariat de police également, puisque c'était au même commissariat, pendant ma garde à vue, deux policiers, dont un gradé, m'a expliqué qu'ils se vengeaient des trois collègues OPJ que j'avais poursuivis dans le cadre de l'autre affaire. Donc on est aussi dans une histoire de vengeance au niveau
oui,
de la police.
C'est l'histoire dans l'histoire. Et votre ex-compagne était bien évidemment au courant de tout cela, donc elle l'a utilisé, hein, selon vous, c'est ça.
Elle était au courant que j'étais innocent de cette histoire, et forcément son avocat l'a
réutilisé
en lui expliquant que ça jouerait en ma défaveur.
Vous faites quoi dans la vie, Michael, comme travail?
Je suis consultant dans le milieu informatique.
D'accord. Alors, les enfants dans tout ça, parce que on parle de votre cas, hein, sur cette affaire qui est montée peut-être ou pas, je ne sais pas, hein, de toute pièce. En tout cas, vous l'exprimez tout à fait clairement. Maintenant, les enfants, comment ça se passe? Parce que comment ça se passe avec votre fils qui a été instrument de votre ex-compagne, en tout cas, qui semble l'être, selon vos dires?
Donc j'allais y venir, parce que pour moi, c'est quand même le centre de mes préoccupations.
Bah oui.
Suite à la garde à vue, etc., donc je suis passé sous contrôle judiciaire, je n'ai pas le droit de retourner à mon domicile. Donc je me retrouve à la rue, et pendant que je recherche un toit, mon ex-conjointe accumule des plaintes calomnieuses pour alimenter un dossier factice au civil, donc toujours orchestré par son avocate. Donc ça, je n'ai pas connaissance tout de suite. Et à peine un mois plus tard, en fait, elle obtient en urgence une audience devant le juge des affaires familiales, donc le JAF, et elle obtient une ordonnance d'éloignement, non seulement du domicile, mais également sur mes deux enfants. Alors même que le juge des libertés, donc qui décide du contrôle judiciaire, avait demandé que la relation avec mon fils cadet, qui n'était absolument pas concerné dans tous les cas par l'histoire, soit maintenue et même encouragée. Et pour ça, donc, elle a utilisé ces plaintes calomnieuses, et également un faux, elle a fabriqué un faux qui travestissait la décision du juge des libertés. Et dans cette audience, également, je n'ai pas été convoqué, donc j'ai jamais pu me défendre, j'ai jamais été entendu dans cette histoire, parce qu'elle a fait, l'huissier ne m'a pas contacté, et il a fait envoyer le courrier, la convocation, à l'adresse à laquelle je n'ai plus le droit d'aller. Ce qui fait que je n'étais pas présent à cette audience.
Mais c'est grave, elle fait des faux comme ça, et on la laisse faire.
Alors, ce qui est grave, c'est que derrière, il n'y a aucun recours. Ce qui est grave, c'est que derrière, dans ces cas-là, on parle quand même de la soustraction d'un enfant, hein. C'est un enfant qui a été enlevé contre, en plus, l'avis d'un magistrat. Et derrière, il n'y a absolument aucun recours. Parce que le jugement prévoyait malgré tout des visites médiatisées, mais elle n'a pas respecté les visites médiatisées. Et donc, avec mon fils cadet, je suis resté sans nouvelles de lui, sans le voir, pendant 14 mois exactement. Et pendant 14 mois, donc vous imaginez chaque jour sans son enfant, déjà à quel point ça peut être douloureux.
Mais surtout vu le contexte. Surtout vu le contexte, parce que votre fils cadet, qu'est-ce qu'elle lui raconte pendant ce temps-là? Qu'est-ce qu'il croit de cette histoire? Il y a quelque chose, et d'ailleurs les auditeurs réagissent ce soir. On a presque du mal à croire tout ce qui se passe dans votre vie, Michael. Parce que cette femme, elle est quand même... elle va loin, elle fait des faux et des usages de faux, et elle n'est pas poursuivie.
Exactement, et aujourd'hui j'ai déposé plainte, hein, contre ces faux, ces dénonciations calomnieuses. J'ai saisi le procureur, mais pour l'instant, aujourd'hui, on est quand même de nombreux mois plus tard, il n'y a toujours rien qui avance et qui est en cours. Donc je ne sais pas ce que ça donnera. En tout cas, il y a des procédures en cours. Que ça paraisse difficile pour certains de me croire, je peux l'entendre, parce que c'est extrêmement violent. Pour autant, ça existe et tout ça est prouvé, les politiques sont au courant. Et je pense qu'on est... Je ne suis pas le seul dans cette histoire. Donc pendant 14 mois, je ne revois pas mon fils. Je me bats parce qu'elle ne respecte pas les visites médiatisées. Je me bats de toutes mes forces pour le récupérer, et c'est compliqué. Et je vais même vous dire, au mois de juin, donc on est 5 mois plus tard, le garde des Sceaux, hein, parce que les ministres ont été avertis très tôt, le ministre de l'Intérieur, par mon député que j'ai contacté, qui s'appelle Mathieu Lefebvre, qui est un ami de Gérald Darmanin, Donc, lui a expliqué toute l'histoire. Il n'y a eu aucune intervention de Gérald Darmanin. Il est au courant de ce qui s'est passé dans le commissariat. Et le garde des Sceaux, qui a été alerté à plusieurs reprises également, a saisi directement le parquet de Créteil pour non-présentation d'enfants. On m'a dit que c'était exceptionnel, que ça ne se faisait pas. En général, il ne se mêlait pas. Et malgré cette saisie qui date de juin 2023, j'ai été entendu que 7 mois plus tard en tant que victime par la police. Et madame n'a toujours pas été entendue sur cette affaire. Donc même quand le garde des Sceaux s'en mêle...
Ça ne marche pas. Ça n'accélère pas le dossier.
Sur un sujet d'enlèvement d'enfance, c'est-à-dire que c'est pas... Il y a d'autres affaires qui sont moins graves où le temps de la justice est moins oppressant et sans doute moins grave que quand on parle d'enlèvement d'enfant. De soustraction au sens légal. Là, c'est un enlèvement d'enfant. La justice ne va pas plus vite, même quand le ministre s'en mêle.
Michael, pardonnez-moi de vous poser cette question. Vraiment, je vous demande de me pardonner par avance. Mais tout ce que vous nous expliquez ce soir sur l'antenne d'Europe 1, de votre dossier, vous pouvez prouver ce que vous êtes en train de nous exprimer?
Alors, tout est prouvé, tout est à l'écrit. J'ai de nombreuses procédures.
Voilà, l'intervention du garde des Sceaux dans votre affaire, auprès du parquet... Ça, c'est, vous avez des preuves de ce que vous nous avancez ce soir et du fait que l'affaire piétine.
Absolument, et c'est lui qui a saisi la police. Et d'ailleurs, moi, je n'étais pas au courant. C'est la police qui m'informe en me recevant au mois de février, me dit on a été saisi par le parquet, par le ministre, par le garde des Sceaux au sujet de cette affaire. J'étais même pas au courant. Donc, je me suis dit tant mieux. Ça veut dire que mes courriers au moins ont servi à quelque chose et au moins il a bougé le petit doigt, même si le garde des Sceaux, en fait, c'est n'a aucune action dans ce type de procédure, c'est pas son rôle.
Non,
il
mais
pas
vous avez été entendu, en tout cas. Il y a quelqu'un qui vous a entendu.
Pour la peine, sur ce coup, oui, j'ai été un petit peu entendu. C'est vrai que ça fait du bien. Des fois, on s'attache à des petites choses, à des petites victoires en attendant d'autres choses. Et donc, pendant 14 mois, j'ai pas vu mon fils, j'ai eu aucune nouvelle. Aujourd'hui, je le revois quelques heures par semaine ou toutes les 2 semaines. Et je continue à me battre pour obtenir la garde partagée avec lui, parce que c'est ce qu'il a demandé. Et je vais vous expliquer. L'année dernière, alors que j'avais aucun contact avec lui, il a écrit au tribunal à 2 reprises un courrier en demandant à revoir son père et en demandant la garde partagée.
Quel âge il a, votre fils cadet ?
Il avait 12 ans. Aujourd'hui, il a 13 ans.
Oui, donc il est capable de s'exprimer, il est même capable d'être entendu.
Absolument, mais au niveau de la loi, il est considéré comme n'étant pas capable. Puisque tant qu'on n'a pas 18 ans, on n'est pas censé pouvoir s'exprimer. Donc c'est toujours très compliqué quand on est mineur.
Comment vous savez ? C'est lui qui vous a dit qu'il avait écrit au JAF ?
Non, je l'ai su par voie détournée, par ma mère, qui en était informée également. Donc j'ai eu cette information. Et les 2 courriers qu'il envoyait au JAF, dans un premier temps, ont disparu pendant 2 mois. J'ai appris après coup, par la greffière qui s'en est dédouanée, que c'était le magistrat qui avait fait disparaître ces courriers.
Mais attendez, tout le monde ne peut pas être contre vous à ce point, Michael. On a les avocats véreux, on a les policiers, on a maintenant le JAF. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas.
Valérie, j'entends que personne ne veut me croire, et pourtant, aujourd'hui, il y a un courrier que je peux vous envoyer, évidemment, après l'émission, si nécessaire, une saisie du Conseil supérieur de la magistrature à l'encontre de ce magistrat, pour un certain nombre d'éléments, dont... La disparition dont le fait d'avoir soustrait les courriers de mon enfant du dossier. C'est écrit, je peux vous envoyer la saisie. Donc vous imaginez bien quand on dépose une plainte, quand on saisit le procureur de la République, quand on saisit le Conseil supérieur de la magistrature, on ne peut pas se permettre de le faire sur la base de faits totalement inventés, parce que sinon l'affaire se retourne contre nous. Et si j'avais menti, je serais poursuivi dans les mois prochains pour avoir créé du tort à toutes ces personnes-là. Donc non, ces saisies ont été faites parce que ce sont les faits réels. Et ça m'a été reproché d'ailleurs d'avoir eu connaissance de l'existence de ces courriers. Du coup, elle a dû les rétablir et malgré tout, dans le jugement qu'elle a rendu, elle a travesti les paroles de l'enfant et elle lui a fait dire autre chose dans son écrit. Donc là aussi, c'est un écrit, hein, le jugement est un écrit. Les courriers existent et donc le jugement ne respecte pas le courrier.
Mais votre avocate, elle n'a pas accès à ces dossiers-là ?
Alors l'avocate, si justement, elle est allée au congrès du tribunal.
Donc elle a vu les courriers de l'enfant, de votre
non,
fils.
Non, dans un premier temps, justement, ils avaient disparu.
Mais après, dans un second temps.
Dans un second temps, oui, parce qu'elle les a vus.
Et donc elle a pointé du doigt la différence entre ce qui a été dit, comment ils ont été détournés, et les mots qui le.
Non, votre parce fils... que depuis, nous n'avons toujours pas d'audience. On est dans une attente. Parce que le souci, Valérie, quand on a ce type de jugement défavorable, si on fait appel il faut attendre 2 ans. Mais 2 ans pour une garde d'enfant, c'est insupportable. Donc il y a d'autres systèmes pour faire appel, qui sont des voies d'accident. Ça demande un petit peu de temps, plusieurs mois, mais c'est plus rapide que l'appel, et donc je suis dans ces procédures-là. Donc aujourd'hui, c'est toujours en cours, c'est pas abouti, mais à la prochaine audience, il sera mentionné que effectivement le jugement n'a pas respecté les dires de l'enfant. C'est pas un verbatim, en fait, elle a transformé même les dires de l'enfant. Et je vais aller plus loin, parce que pareil, vous allez toujours pas me croire, c'est pour montrer à quel point on a des soucis. Ce magistrat-là n'avait pas le droit d'exercer, parce que quand on veut être juge, on doit faire un certain nombre d'années d'auditrice ou d'auditeur, c'est-à-dire qu'on assiste à des audiences sans rien dire, pour regarder les autres et pour apprendre. C'est comme ça qu'on devient magistrat. Et il y a un certain nombre de semaines à faire avant de pouvoir être diplômé. Et ce magistrat n'a pas respecté, en fait, ces semaines d'audition. Elle en est loin, très très loin. Et donc, elle n'aurait jamais dû avoir son diplôme. Et ça, c'est facile aussi à prouver, puisque sur Google, on retrouve les journaux officiels où paraissent les nominations en tant qu'auditeur, puis en tant que magistrat, de tous les magistrats. Donc, je sais exactement le nombre de semaines qu'elle a faites, et elle n'aurait jamais dû être diplômée. Elle n'a pas un diplôme valable.
Incroyable. C'est incroyable, en vous écoutant, Michael, la somme d'obstacles que vous avez rencontrés et les dysfonctionnements que vous pointez. C'est incroyable. Alors, on a des auditeurs qui réagissent. Vous êtes nombreux ce soir à réagir au 739-21 et je vous en remercie. Donc, on a déjà un auditeur qui nous dit qu'il faut qu'on demande à notre avocat maison, qui est Roland Pérez, qui est aussi le joker de la Libre Antenne, pour vous aider. Mais en fait, on a tenté de l'appeler pendant qu'on est en train d'échanger ensemble et il n'est pas disponible ce soir, mais on y a pensé. Donc, je le dis pour cet auditeur qui dit qu'elle vous croit, et je vous dis ça pour vous remonter le moral, Michael, ce monsieur est beaucoup plus crédible que la justice et que la police. D'ailleurs, notre auditeur met un lien YouTube, je ne sais pas de quoi il s'agit puisque je suis à l'antenne. On a un autre auditeur ou une auditrice qui dit pas de juge des enfants dans cette situation, donc elle parle de l'AEMO, donc c'est l'aide de protection à l'enfance, il me semble, action éducative en milieu ouvert, je crois, l'AEMO dans mon souvenir.
Alors, je peux me permettre une remarque là-dessus, c'est intéressant. Le juge des enfants, donc c'est une autre démarche, et le juge des enfants peut être saisi soit par les parties, soit par le JAF. Le JAF, vous m'avez parlé tout à l'heure de mon fils aîné qui essaie de tuer son père, donc vous imaginez l'état psychologique dans lequel il doit se trouver.
Oui, absolument, j'allais vous poser la question du syndrome post-traumatique, quand même, oui.
Alors, je pense, 2 points sur la remarque de cette auditrice qui est très intéressante. Le juge des affaires familiales a la possibilité de saisir le juge pour enfants. Il a la possibilité de demander un suivi psychologique. Aucun des juges ne l'a fait, ils n'ont pas estimé cela nécessaire. Et de ma part, j'avais également la possibilité de saisir le juge pour enfants, et j'ai décidé de ne pas le faire. Ça fait partie des paradoxes dans lesquels on se retrouve dans cette situation. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je n'avais plus la garde, j'avais plus aucun droit sur mon fils. Et à partir du moment où je saisis le juge pour enfants, si le juge pour enfants découvre que du côté de sa mère, il se passe des choses qui ne sont pas normales, et c'est le cas, j'ai eu des remontées comme quoi c'était le cas, l'enfant est placé en foyer. Et mon objectif, c'était de récupérer mon fils, de le libérer, de récupérer mes droits, la garde, pas tant pour moi même que pour lui, et certainement pas de le placer en foyer, je parle du fils cadet, hein. Parce qu'en foyer, ça aurait été pire, en fait, le but, on essaie de sauver son fils, on n'essaie pas de détruire leur vie encore plus, même quand on a des faits contraires.
Effectivement.
Et donc je me suis abstenu de saisir le juge pour enfants jusqu'à présent, pour ne pas compliquer la vie de mon fils cadet.
Et quand vous dites que vous avez des remontées du côté de votre ex-compagne, donc de la maman des enfants, vous avez des remontées par qui ? Par les enseignants ?
Aujourd'hui, j'ai l'enfant. L'enfant a témoigné dans ses courriers, et il m'a témoigné, maintenant qu'on peut se parler, il m'a témoigné de violences psychologiques qu'il a subies pendant les 14 mois de séparation.
Lui aussi, donc comme son frère aîné, en fait.
Alors, une alliation différente, mais des violences psychologiques, tout un tas de violences, effectivement. Il a été privé... par exemple, ils ont confisqué pendant des mois son chargeur de téléphone pour pas qu'il puisse parler à ses grands-parents. Ils ont privé de son ordinateur d'école, du collège, qui est fourni par le département, pendant l'année scolaire, pour pas qu'il puisse communiquer non plus via des emails. C'est voilà un ensemble de choses qui fait qu'il a toujours été isolé et qu'il a eu la résilience assez incroyable quand même pour son âge. À 12 ans, c'est quand même... On est encore petit, hein, malgré tout.
Oui. D'envoyer les courriers. Et comment il a fait pour envoyer les courriers ? Il est passé par quel biais ?
Par la poste, tout simplement.
Tout simplement, il a pris sur lui. Alors, on a un autre auditeur qui dit Alors, c'est une femme qui dit que la police l'a sauvée d'une tentative de féminicide, donc flagrant, c'est dont vous nous parliez tout à l'heure. Alors, elle dit que ces chiffres et argumentations de ce monsieur sont non fondés. Pourquoi citer des personnalités? Car il instrumentalise son passage à la radio. Mais tout à l'heure, vous
l'expliquez.
Voilà. Et puis, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Quand vous parlez de toutes ces personnes, vous prenez aussi des risques si vous ne pouvez pas prouver vos dires. Donc là, on répond à l'auditrice.
Et d'autant plus que je n'ai pas dit du mal, c'est un propos qui est totalement apolitique. J'ai dit que déjà Damanin est à l'origine, et je les assume parce que lui il n'hésite pas à porter plainte contre diffamation, donc et qu'il a strictement rien fait dans mon affaire, c'est son choix, mais en tout cas il a été informé de tout ce qui se passe, et j'ai affirmé que le ministre, le garde des Sceaux, par contre, lui est intervenu. Donc mon propos est totalement apolitique, c'est juste un concours de circonstances, parce que malgré tout ce sont eux qui sont en manette, qu'on a des institutions, pour moi, qui dysfonctionnent grandement. Et le souci dans mon histoire, parce que vous parlez de cabale, mais ça y ressemble sans être un complot, c'est qu'à partir du moment où au début, il y a quelque chose qui se passe mal, il y a quelqu'un qui a fauté, il y a au parquet ou au niveau de la police, ils ont voulu aller un peu obtenir un chiffre, on va dire, parce qu'ils sont optimisés par des chiffres, sans doute, on peut le comprendre. Derrière, une fois qu'il y a des erreurs qui sont commises, il faut les couvrir. Et donc à partir du moment où une erreur est commise, il y a tout un engrenage qui se met en place. On parlait de cercle vicieux avec la personne qui a témoigné juste avant sur une autre affaire, mais dans un système où aujourd'hui, si on donne raison, on donne tort aux juges, donc il faudrait condamner les juges et les policiers. Donc aujourd'hui, l'État, il est parti pris et il est en conflit d'intérêts dans mon affaire. Et c'est pour ça que je pense que tout est contraire pour l'instant, même si je pense que j'aurai gain de cause, peut-être après 10 ans de procédure, je pense que j'aurai gain de cause quand je déposerai plainte contre l'État, puisqu'on est en plein déni de justice à plusieurs niveaux. Je ne sais plus si j'ai eu le temps de le dire tout à l'heure, mais à la cour d'appel, parce que j'ai quand même fait appel du premier jugement aux affaires familiales, à la cour d'appel, le procureur et les magistrats, les trois magistrats de la cour d'appel, se sont entendus dans un acte de corruption pour fabriquer un faux jugement en inversant, sur la base de copier-coller, en inversant volontairement les conclusions des UMJ me concernant et celles concernant mon fils, pour faire croire que j'aurais été violent, alors que les conclusions des avocats étaient particulièrement claires. Et c'était ce qui justifiait l'appel. Ça aussi, ça a donné lieu à des poursuites auprès du Conseil supérieur de la magistrature, puisque c'est une procédure écrite. Donc à l'écrit, tout est prouvable, alors que dans une salle d'audience orale, on peut pas enregistrer ce qui se passe.
Donc là, vous aviez aussi gain de cause. Ça a été reconnu. Vous avez le jugement de la cour d'appel, là. Vous avez fait appel.
Au contraire, la cour d'appel a confirmé le jugement civil de première instance. Mais en fabriquant
des fausses preuves, en détournant
sur la base de copier-coller, en les inversant volontairement, en montant sur un modèle de document qui existait déjà. Il y avait des traces d'une autre affaire précédente qui ressemblait, parce qu'ils avaient décidé qu'ils voulaient que je sois coupable et qu'ils l'ont organisé. Et ce n'est pas médire, c'est pas du vent. Il y a une plainte contre ces magistrats auprès du Conseil supérieur de la magistrature, qui d'ailleurs les a défendus, sans surprise. Mais ça reste à l'écrit dans une procédure plus tard, sans doute j'aurai un jour une opportunité de déposer plainte contre l'État.
Je comprends ce que vous nous exprimez.
En attendant, je me bats avant tout pour mes enfants, avant même la vérité, parce que là, l'urgence aujourd'hui, c'est de libérer mon fils cadet et de mettre en place un suivi psychologique pour mon fils aîné, parce que malgré ce qu'il a fait, je l'aime toujours, ça reste mon fils, j'ai sacrifié toute ma vie pour mes enfants, et je pense qu'il est dans un état psychologique très dangereux, y compris pour lui-même. Et je ne comprends pas qu'après un an et demi, il n'ait jamais pu voir un psychologue, une personne externe.
Ça, c'est incroyable. Hein. Mais peut-être qu'il en a vu un et vous n'êtes pas au courant, non, peut-être?
Peut-être aussi, mais ça m'étonnerait.
Parce que ce serait quand même étonnant que personne ne l'ait obligé par voie juridique, justement, à être pris en charge, tout de même.
Alors, en tout cas, au niveau juridique, je suis quand même au courant de ce qui se passe. Il n'y a aucune décision juridique qui va dans ce sens et qui demande même qu'il soit juste vu par un psychologue une fois. Ni l'un ni l'autre, aucun des enfants. Ce qui n'est pas normal non plus, puisque je serai magistrat, première chose, je voudrais me protéger. Et surtout que j'ai expliqué au magistrat que j'étais très inquiet pour mon fils aîné et que j'excluais pas même la possibilité d'un suicide à un moment donné où il prendrait conscience de ses actes.
Il va culpabiliser, ça c'est certain.
Et donc j'étais même très inquiet pour lui, malgré ce qu'il m'a fait.
Vous ne l'avez jamais revu depuis ?
Alors, je l'ai revu dans les salles d'audience. Je n'ai pas le droit de le voir autrement.
Alors, beaucoup de réactions ce soir, hein, au 739-21. On a Yvette qui dit qu'elle croit en la véracité de vos propos. On a l'impression d'entendre une enquête menée par des novices et par des apprentis, en somme. On a Alain qui dit que vous apprenez trop de choses par voie détournée et que c'est très difficile de croire en votre histoire. On a un autre auditeur qui dit « Je crois parfaitement l'auditeur qui prend la parole ce soir sur Europe 1 pour avoir vécu moi-même l'impensable face à la justice concernant la garde de mon fils, des décisions plus qu'impensables, des éléments graves avec preuves à l'appui pas pris en compte, exactement comme pour vous Michael, c'est le combat des pères », nous dit-il. Et on a une autre personne qui vient d'envoyer un message au 739-21. Il est vrai que le système est complètement vicié. Pour faire du chiffre, les personnels cachent ou oublient des infos ou des documents pour ne pas avoir à revenir sur un dossier. C'est du stress, du harcèlement, tout ça mène à des résultats désastreux. On a une autre personne qui vient d'envoyer. Ce monsieur, je les découvre en même temps que je vous les lis parce qu'on a beaucoup de réactions ce soir et beaucoup d'appels. Ce monsieur est probablement HPI, décrypte parfaitement les dysfonctionnements. Regardez ce qui s'est passé pour Bac Nord. Il est victime des dysfonctionnements. Il serait bien de le faire revenir avec son avocat. Par expérience, je crois totalement ce monsieur. Vous n'imaginez pas comment fonctionne la justice. Dans mon cas, elle a détruit ma famille, nous dit Alice. Voilà, et quelqu'un suggère que vous appeliez le 119 pour déclencher une évaluation sociale.
Alors, je me renseignerai, je ne connaissais pas. Je voudrais remercier ces auditeurs. C'est très important d'avoir de l'écoute et il y a beaucoup de choses très vraies dans ce qu'ils disent et très fortes. Je voudrais juste préciser un point. Quand on parle du combat des pères, c'est très vrai et c'est mon combat maintenant depuis un an et demi. C'est pas que le combat des pères. C'est un combat de société, c'est aussi le combat des femmes. Je l'ai expliqué au début. Je pense que les vraies femmes qui sont victimes de violences, il y en a énormément, j'en ai beaucoup parmi mes propres amis, qui n'ont jamais été écoutées par la justice. Bien sûr, il y a des associations, mais je parle de la justice. Elles n'ont rien à gagner aujourd'hui à ce que des femmes simulent des violences pour obtenir des séparations, parce que ça leur crée du tort à elles avant tout. Et aujourd'hui, chacun combat dans son coin avec des associations qui ne veulent pas entendre parler de l'autre genre. Donc c'est les hommes contre les femmes. C'est un faux débat, c'est un faux combat. Puisque derrière, c'est des familles, c'est des enfants, c'est des gens qui souffrent. Et ce sont des victimes avant tout qui souffrent. Derrière ces pères qui se battent, j'en ai vu beaucoup dans l'espace médiatisé. Et je ne suis pas là pour juger de leurs histoires. Je ne suis pas non plus. Je ne peux pas savoir s'ils m'ont dit la vérité ou pas sur ce qu'ils ont vécu. Je vois juste un constat. J'ai vu beaucoup de souffrance. Et je vois surtout des enfants qui sont séparés de leurs parents, et en général c'est le père, et dans beaucoup de cas qui sont monnayés contre des pensions alimentaires. On a quand même un système qui s'est totalement travesti, et je l'ai vu moi-même dans mon cas, puisque l'enfant demande la garde partagée, il explique que sa mère a toujours demandé la garde partagée, mais devant le magistrat c'est un autre discours, on demande la pension alimentaire et pas la garde partagée. À aucun moment on ne parle de l'intérêt de l'enfant, et le magistrat il suit derrière avec dans un esprit totalement woke qu'on imagine. Donc aujourd'hui, comment on peut monnayer contre quelques centaines d'euros ses propres enfants? Comment des parents qui sont normaux et du jour au lendemain décident de monnayer, même sur les conseils d'un avocat, leurs propres enfants contre une centaine d'euros? C'est pas que le combat des pères. C'est le combat des pères, des mères, des familles. C'est le combat de tout le monde, de toute la société. Parce que ces enfants qu'on a détruits, demain, ce seront peut-être des délinquants. En tout cas, ils ont plus de chances de le devenir quand on a une vie aussi compliquée, même s'il ne faut pas faire de généralité. Donc,
Après, Michael, des divorces difficiles et violents et durables dans le temps et qui détruisent les enfants, il y en a depuis toujours. Hein.
Alors, il y en a depuis toujours. Là, ce que j'explique, ce n'est même pas des divorces qui se passent mal. C'est des affaires qui sont complètement montées de toutes pièces, où l'intérêt de l'enfant passe toujours en dernier. Je voudrais rappeler quand il y a eu les émeutes. Personne ne peut cautionner les émeutes qu'on a eues l'année dernière au mois de juillet. Néanmoins, les condamnations nombreuses sur ces émeutes ont donné lieu à des statistiques qui ont été fournies par le ministère de la Justice et qui expliquent que la très grande majorité des enfants délinquants n'avaient pas de père, en tout cas pas de père qui avait des droits sur eux. On peut quand même se poser des questions.
En tout cas, j'en reviens à votre affaire personnelle. Pour en arriver là, pour votre ex-compagne, il fallait quand même qu'elle vous haïsse. Non. Est-ce que ça faisait 8 ans que vous étiez sous le même toit? Vous alliez de toute façon vous séparer. J'imagine que vous aviez peut-être même entamé des procédures. Peut-être que vous attendiez de vendre le domicile, je ne sais pas. Non.
On attendait de vendre, tout était à l'amiable et tout se passait relativement bien pour une séparation qui dure si longtemps. Et pensez bien que mon avocate l'a rappelé au tribunal, au magistrat, comment, et puis également au juge des affaires familiales, comment imaginez-vous que de personnes qui ont vécu 20 ans sous le même toit, dans un foyer où il n'y a jamais eu aucune violence, pas d'alcool, pas de violence, qui ont vécu 8 années séparées sous le même toit, c'est énorme. Il y a très peu de personnes qui sont capables de faire ça.
Ben oui, c'est pour ça que je suis étonnée.
Sans raison, sans motif, parce que la police a conclu à une absence de motif. Sans motif, du jour au lendemain, sans alcool, sans dispute, d'un coup, on se retrouve à une situation chaotique. Mais la magistrate n'y a pas cru.
Oui, bah c'est, oui c'est incompréhensible hein, ce que vous nous racontez ce soir. C'est inquiétant cette escalade hein, de dysfonctionnement. Et je comprends en même temps que c'est comme les dominos. On pousse le premier domino, il y a tous les autres qui s'effondrent derrière en fait.
Tout s'est enchaîné sans que je comprenne ce qui se passe. Là, notamment le fait de me retirer les enfants, puisque moi, sur le premier mois où je me bats pour essayer de retrouver un toit parce que je me retrouve à la rue, et que je suis gentiment hébergé par quelqu'un, d'ailleurs pour m'éviter la rue, par une amie, qui a eu cette grande générosité, j'ai aucune idée de ce qui se passe dans mon dos. Mais du côté de l'avocate, tout était rodé. Mon avocate m'a dit après coup, je la connais, j'ai l'habitude, c'est toujours les mêmes procédures, donc elle déroule. Donc les plaintes calomnieuses en cascade, le faux dossier, le dossier envoyé à une adresse où je ne peux pas récupérer la convocation au tribunal. Aujourd'hui, au niveau des juges des affaires familiaux, il existe des procédures en urgence dans ce type de figure qui permettent d'être jugé en 3 jours, mais le magistrat, normalement, a l'obligation de s'assurer que l'autre partie a été convoquée, et normalement, il a l'obligation d'entendre les deux parties. Mais aujourd'hui, même les magistrats ne respectent plus la loi. C'est pour ça qu'on en arrive à cette situation, parce que si je peux me défendre sur le premier procès, jamais il y a une ordonnance de séparation. Jamais elle peut présenter des faux papiers parce que je peux les dénoncer tout de suite. Mais une fois que ce jugement est passé, derrière, la loi n'offre aucun recours dans des délais raisonnables. Et les magistrats, ne voulant pas prendre de responsabilité, d'ailleurs, ils se cachent derrière la décision du magistrat précédent, ce qui ne devrait pas être le cas, puisqu'en appel, on doit rejuger un jugement. On ne peut pas s'appuyer sur ce qui a été fait avant. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, on pourra toujours trouver des excuses, ils sont débordés, ils ne lisent pas les dossiers. Au pénal, par exemple, j'ai eu la chance que la magistrate avait lu le dossier, elle le connaissait. Et par contre, le procureur de la République n'avait pas lu une seule ligne, et ça se voyait.
Ça va dans le sens d'un auditeur qui vient de nous laisser un message au 739-21 qui dit « Il faut y passer pour le croire. Il n'est d'ailleurs pas normal que la décision soit prise par une seule personne. Cela devrait être collégial avec plusieurs représentants de milieux divers. »
Alors, je remercie cet auditeur et je voudrais préciser que les magistrates en question, il y en a de plus en plus, dans mon affaire, elles ont toutes 27 ans. Elles n'ont pas d'enfants. Elles n'ont aucune connaissance de la vie. Le procureur général avait 27 ans. La juge a jugé toute seule. Ce n'était pas un collège de 3 personnes. Elles sont seules systématiquement, cet auditeur a raison. Et aujourd'hui, vous avez entendu il y a quelques semaines, le président de la République et le garde des Sceaux se féliciter du recrutement massif de magistrats, de jeunes magistrats pour renforcer les effectifs. Ces gens-là, c'est comme à la police, ce ne sont pas les meilleurs classés, il n'y a pas plus de candidats au concours. Ce sont les gens qui ont les moins bonnes notes, on recrute plus large. Donc ce sont des gens déjà qui étaient mauvais pendant leurs études, ou moins bons en tout cas que les autres, qui n'avaient pas le niveau requis, qu'on embauche, et qu'on met, au bout de 2 ans, au bout des 51 semaines d'auditrice, qu'on met seul, pas accompagné d'un magistrat expérimenté, seul devant des affaires très complexes, que ce soit en correctionnel ou aux affaires familiales. On est dans un système catastrophique, qui est de pire en pire, sans parler des influences wokistes des syndicats. Et ça, personne ne le sait. Quand on n'est pas passé par là, on ne peut pas le croire, on ne peut pas comprendre, parce qu'on est en France, on est fier d'être français, on est le pays des droits de l'homme, on a l'impression d'être dans un pays où les choses vont relativement bien. Et moi, quand j'écris aux politiques, je leur rappelle que dans l'Afghanistan des talibans, aujourd'hui, j'aurais été jugé de façon plus juste. La justice est peut-être cruelle, mais elle est plus juste parce qu'on condamne les coupables et pas les innocents.
C'est violent, cette comparaison quand même. Oui.
Mais je le fais systématiquement, je veux leur ouvrir les yeux. Et je vais vous dire autre chose, le président de la République en personne, quand il est arrivé au pouvoir en 2017, à part le sujet contre les femmes, il a dit « une de mes priorités, c'est la réforme des institutions ». Il avait bien conscience du dysfonctionnement des institutions. Et si on n'avait pas eu l'épisode des Gilets jaunes, où il a compris qu'il avait absolument besoin du soutien de la police notamment, et de la justice derrière, je pense qu'il s'y serait attaqué parce qu'il avait conscience des défaillances du système, et qu'il s'est retrouvé piégé finalement par ce phénomène et qu'il a abandonné le sujet. Et là, pareil, j'invente rien, revoyez les... réécouter les déclarations d'Emmanuel Macron.
En parlant de défaillance et de procédure, on a Joseph au 739-21 qui attire notre attention, mais vous avez répondu tout à l'heure parce que vous parliez de relations. Hein. Donc je réponds à Joseph en même temps, qui nous dit que l'article 30 du Code de procédure pénale interdit aux gardes des Sceaux d'adresser des instructions individuelles de poursuite au parquet. Donc c'est illégal s'il a réellement donné instruction dans son affaire. Je pense donc qu'il ne dit pas la vérité, nous dit Joseph en parlant de vous, Michael. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est parce que vous êtes, il est intervenu par le biais de relations. Donc je réponds à Joseph.
Non, pas du tout, parce que moi j'ai écrit, j'envoie des emails aux politiques, j'envoie tout simplement des emails au cabinet.
Et il n'a pas donné d'instruction, hein, c'est ça.
Alors il a donné une instruction, il est passé en fait pour contourner cette loi, mais il l'a vraiment fait, et les preuves sont dans le dossier, hein, je peux vous envoyer les... après l'émission, je peux vous tout envoyer à votre avocat, à l'avocat de...
Roland Pérez,
il est passé par son directeur de cabinet, et c'est le directeur de cabinet qui saisit à la demande du garde des Sceaux, qui saisit le parquet. Donc il a contourné, mais il est quand même intervenu. C'est lui qui intervient directement, c'est pas le directeur de cabinet qui prend cette décision. Et donc ça, j'ai des papiers aujourd'hui qui le prouvent. Donc je comprends ce qu'il explique, c'est pour ça que je disais que c'était exceptionnel, et que le garde des Sceaux, finalement, a aucun moyen, même sollicité en théorie, puisqu'il ne doit pas intervenir dans les affaires, et quand il passe lui-même dans les émissions, il s'en explique en disant « je ne peux rien faire, je suis piégé, point lié face à ce système ». Et c'est la réalité. Aujourd'hui, on a un ministre, sans lui faire offense, qui n'a pas du tout les pouvoirs pour modifier ce système. Oui. Et d'ailleurs, c'est le président de la République qui est garant des institutions et de la justice.
Est-ce que vous vous êtes rapproché d'associations, vous, Michael, en plus, pour être un peu plus nombreux, justement, à défendre votre dossier et surtout à dénoncer les dysfonctionnements dont vous nous parlez ce soir sur Europe 1 ?
J'ai cherché au début. Il y a beaucoup d'associations de pertes, victimes de violences, des hommes victimes de violences. Mais comme toutes les associations, comme tout le monde est divisé, elles n'ont aucun pouvoir. Aujourd'hui, je le répète, je pense que la situation est quand même assez dramatique pour tout le monde. Je pense que même les gens qui critiquent, hein, s'ils ont pas, sont pas à l'abri que ça leur arrive demain. Et je pense qu'il faut absolument que les gens se réunissent, que les associations se réunissent, qu'elles arrêtent de voir au niveau de leur paroisse et qu'elles voient plus large, que les hommes et les femmes, finalement, c'est le même combat contre les violences familiales, contre les fausses violences familiales, contre les dérives de la justice qui détruisent des familles. On est tous logés à la même enseigne. Et que tant que chacun est dans son coin, on n'arrivera jamais à peser
pour faire bouger le système.
Pour faire bouger le système.
Oui. D'autant et venir plus en aide à vos enfants, parce qu'il y a des enfants derrière, oui, quand même. Hein, l'enjeu,
d'autant
c'est ça.
Des enfants derrière, c'est un signal, oui. Valérie. Vous me donnez la parole, mais je me bats aussi depuis des mois avec des journalistes un petit peu de tous bords pour que le sujet soit abordé. Et la plupart des journalistes ont peur de ce sujet. Donc je vous remercie d'autant plus de permettre d'en parler ici, puisque vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent et que je suis certain qu'on est nombreux à être concernés. Ces enfants-là, c'est la société de demain. Ces familles qu'on détruit, ce n'est pas sans impact. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est tous concernés, qu'on ait des enfants, qu'on n'ait pas d'enfants d'ailleurs.
Oui, alors vous faites quand même couler beaucoup d'encre, hein, parce que Gérard nous dit, justement, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est mal vu quand même la comparaison avec l'Afghanistan, et il nous dit qu'il aille en Afghanistan, ce monsieur. Il y a un autre auditeur qui dit effectivement que l'histoire est un peu racontée à votre manière. Donc encore une fois, bien sûr qu'on vous donne la parole dans la libre antenne, et vous mettez le projecteur sur des zones de dysfonctionnement, mais tous ces propos, évidemment, et je me dois de le dire, n'engagent que vous. Hein, et
alors,
votre avocat, bien sûr.
Je les déclare et je les assume. Si je suis poursuivi demain pour diffamation, je m'en défendrai. Maintenant, si l'émission avait souhaité, on est sur une libre antenne, si l'émission avait souhaité avoir des preuves, je les aurais fournies au préalable sans aucun souci. Hein. Toutes ces procédures sont écrites et de mon côté, les procédures sont toujours en cours. Je compte bien en écrire un livre après coup. Et j'ai pas. Voilà, il y a des personnes qui doutent très bien et le jour où elles auront des proches qui sont concernés, elles commenceront à comprendre que finalement, le système ne fonctionne pas aussi bien qu'on aimerait, malheureusement. Bah, je suis le premier qui voudrait que la justice fonctionne, que la police s'occupe des délinquants et non pas des innocents. Je pense que tout le monde rêve de ça, on vivrait dans une meilleure société, mais parfois on est rattrapé par une réalité bien cruelle.
En tout cas, un grand merci, Michaël, de nous avoir raconté votre histoire sur Europe 1. Et je vous propose de nous tenir informés. Vous voulez bien nous rappeler pour nous donner un peu de vos nouvelles? Nous
avec
dire
plaisir,
comment ça évolue.
Merci
à vous.
Merci à tous les auditeurs qui ont témoigné. Merci à vous de m'avoir donné la parole, en tout cas.
Merci à vous. Bon courage. À bientôt, Michaël. À bientôt. Notez aussi, chères auditrices et auditeurs, que partout, tout le temps, vous le savez, vous pouvez écouter les podcasts hein, sur toutes vos plateformes d'écoute, les podcasts Europe 1, et notamment celui consacré à Notre-Dame de Paris. La France entière et le monde assistent impuissants au drame le 15 avril 2019. 5 ans après, Notre-Dame de Paris s'apprête à rouvrir ses portes, plus resplendissante que jamais. Europe 1 vous propose un podcast inédit autour de témoignages